Chapitre 2. Il nous semble nécessaire avant tout de dire aux bienveillants lecteurs quelques mots sur nos deux amis, afin qu'ils soient de la maison et sachent à quoi s'en tenir sur le compte de l'un et de l'autre. Tous les deux avaient une position que l'on pourrait appeler justement chimérique, attendu qu'elle n'appartient à un homme sur terre. Ils étaient hommes libres, élevés ensemble, ils avaient grandi dans une étroite amitié et ne pouvaient se quitter. Bien qu'avec les années, leur différence de caractère devint de plus en plus sensible, Richard appartenait dans son enfance à cette classe de jeunes garçons que l'on appelle pour d'ordinaire des enfants charmants, parce qu'en société, ils se tiennent des heures entières à la même place sans dire un mot, sans rien demander, sans exprimer un seul désir, et ont par cela même toute l'apparence d'imbéciles. Mais le char est avec des instincts tout dissemblables, et quand tout charmant enfant qu'il était, on lui adressait la parole, lorsqu'il était à la tête basse, les yeux fixés vers la terre, il se réveillait en sursaut, bégayait, pleurait même quelquefois, et paraissait sortir d'un songe profond. S'il était seul, sa manière d'être était toute différente. On l'avait surpris, parlant avec force, comme avec plusieurs personnes, en mettant en scène, comme un comédien, des histoires qu'il avait vues ou entendues raconter. Alors les tables, les chaises, les commodes qui se trouvaient dans la chambre représentaient des villes, des forêts, des villages et des personnages à l'occasion. Un enthousiasme singulier s'emparait surtout de lui quand il trouvait l'occasion d'arrêt solitaire dans la campagne. Alors il sautait, poussait des cris de joie à travers la forêt, embrassait les arbres, se jetait sur le gazon et couvrait les fleurs de baisers. Il se déplaisait dans la société des garçons de son âge. Il passait parmi eux pour être craintif, parce qu'il ne voulait jamais tenter avec eux un saut difficile, une entreprise dangereuse, une ascension rapide, hardie. Mais il avait cela de particulier que, jusqu'à la fin, tous les autres avaient manqué de courage pour chercher, pour achever l'entreprise. Le char restait tranquillement en arrière et exécutait seul avec adresse ce que les autres avaient projeté. Par exemple, s'il fallait escalader un arbre haut et mince où aucun des autres n'avait pu réussir à monter, le char, aussitôt qu'il ne voyait plus personne, était un instant assis au sommet, en un instant. Froid et insensible en apparence, l'enfant saisissait tout avec le sentiment et l'énergie qui appartiennent aux âmes fortes. Et si parfois ce qu'il trouvait dans son cœur se faisait jour, c'était avec une énergie si irrésistible que tous ceux qui devinaient la puissance nerveuse de sa tendre organisation, si bien cachée, en restaient assis saisis d'étonnement. Plusieurs maîtres, les plus académiquement habiles, perdaient leur peine avec cet élève. Et un seul, le dernier de tous, assura que l'enfant était poète, ce qui effraya beaucoup les pères et lui donna à croire qu'il avait le caractère de sa mère, qui, dans les cours les plus brillantes, éprouvait une espèce de sentiment de dégoût et des migraines. Mais l'ami intime de papa, du papa, hein, charmant, élégant chambellan, prétendit que le précepteur était un âne, et que puisque un sang noble coulait dans les veines du beau et du baron, il devait gentilhomme, et non pas poète. Le vieillard, par cette remarque, fut considérablement consolé. On peut deviner d'après l'enfance ce que devait être le jeune homme. La nature avait imprimé sur la figure des chars cette marque distinctive dont elle part ses favoris. Il arriva de là que Charles ne fut pas compris du vulgaire et fut jugé froid, indifférent, incapable d'une extase convenable pour une tragédie nouvelle, et par conséquent prosaïque au dernier degré. Le cercle entier des femmes les plus pénétrantes et du plus grand monde auquel on doit se fier d'ordinaire pour les choses de ce genre ne pouvait absolument pas comprendre comment il se faisait que ce front d'Apollon, ses sourcils fermes et tracés en arc, ses yeux pleins de feu sombre, ses lèvres doucement projetées en avant, appartinssent à une froide statue. Et cela paraissait ainsi parce que Charles, ne comprenant rien l'art de dire aux jolies femmes des riens sur les choses que ne disent rien, et de prendre la pose de Rinaldo dans les fers, il en était tout autrement de Ludovic. Celui-ci appartenait à cette classe d'enfants sauvages et sans retenue, dont on a coutume de dire prophétiquement que le monde sera un jour trop petit pour eux. C'était lui, et toujours lui, qui encourageait les autres à entreprendre des choses plus folles. Et on aurait été porté à croire qu'il aurait pu être en la victime, mais il s'en sortait toujours sans brûlure, car il savait, pendant que la chose s'exécutait, se tenir derrière eux, ce qui esquivait tout à fait. Il saisissait tout avec le plus grand enthousiasme, mais cet enthousiasme dura peu. De la main qu'il apprit beaucoup de choses, mais seulement de tout un peu. Devenu jeune homme, il faisait des vers très gentils, jouait d'une manière passable de plusieurs instruments, peignait très joliment, parlait assez facilement plusieurs langues, et était à cause de tout cela un véritable modèle d'éducation. Il pouvait se pâmer d'admiration devant les choses les moins merveilleuses, et il savait trouver ses paroles pour l'exprimer. Ludovic appartenait aux gens que l'on entend dire partout et sans cesse « je voudrais » et qui ne mettent jamais leur volonté en pratique. Et comme dans ce monde, les gens qui croient bien haut, qui crient bien haut, qu'ils veulent faire autre telle chose, sont beaucoup plus estimés que ceux qui ne disent rien et exécutent véritablement, il arriva tout naturellement que Ludovic fut regardé comme un homme très capable et qu'il fut généralement admiré sans qu'il vînt à l'idée de ce que fut de se demander s'il avait fait ce qu'il avait annoncé si pompeusement. Toutefois, il se trouvait quelques personnes qui, ayant pleinement confiance en ses paroles, lui demandaient avec empressement s'il avait terminé telle ou telle chose. Oh, cela le chagrinait d'autant plus qu'il était obligé de s'avouer, quelquefois à lui-même, lorsqu'il était seul, que dire et faire sont deux. Ainsi, cela arriva pour un livre prôné bien haut avance et qui devait traiter de l'enchaînement des choses. Il saisit avidement ce titre qui excusait sa conduite, ou plutôt son désir inexécuté, après les autres et après lui-même, car il ne laissait pas, il ne faisait pas ce qu'il avait promis. Il ne fallait pas s'en rendre à lui, mais à l'enchaînement des choses. Il n'avait pas permis qu'il en fût ainsi. Mais comme Ludovic, au demeurant, était un beau jeune homme, avec des joues fraîches et roses, il était devenu, à cause de ses qualités, l'idole du mode élégant. Si sa vue basse l'avait entraîné dans plus d'un étrange quiproquo, dont il était survenu pour lui des conséquences désagréables. Il se consolait de tout cela en pensant à l'incroyable impression qu'il s'imaginait faire sur le cœur des femmes. Il avait joint cela à cause de sa mauvaise vue, et pour ne pas prendre en parlant une personne par une autre, pour une autre, ce qui ne l'avait que trop souvent mis dans de grands embarras, l'habitude de parler de très près, même aux dames, et plus qu'il était convenable, même sans aucune façon un homme de génie. Le jour qui suivit celui où Ludovic avait été au bal chez la comte de Puck, et Charles reçut de très bonne heure le billet de lui ainsi conçu. « Cher très ami, je suis malheureux, ruiné, perdu, précipité du sommet fleuri des plus belles espérances dans le noir et profond abîme du désespoir. Ce qui devra précipiter mon ineffable bonheur est la cause de mon infortune. Viens, hâte-toi, console-moi si tu peux. » Richard retrouva son ami, la tête enveloppée, étendue sur un sofa, pâle et fatigué d'une nuit sans sommeil. « Il paraît, dit Richard en souriant, que t'as pas eu au bal tout le plaisir que tu te promettais. » Ludovic poussa un grand soupir. « Et la belle Victorine, reprit Richard, t'aurait-elle regardé de travers? N'aurait-elle pas fait attention à toi ?» Ludovic reprit d'un ton sombre. « Je l'ai offensé d'une manière impardonnable. »« Bon Dieu, mais comment cela est-il arrivé ?» reprit Richard. Ludovic soupira encore une fois, gémit quelque peu, et tout bas, mais avec une certaine emphase. « Richard, comme le mystérieux bruit de chaîne de l'horloge annonce l'heure qui va sonner, ainsi des pressentiments précurseurs annoncent le malheur qui va venir. Déjà dans la nuit qui précéda le bal, j'avais eu un songe terrible. Il me semblait que j'étais chez le comte, et qu'au moment de danser, il m'était impossible de mouvoir mes jambes. Et je vis à mon grand regret, dans la glace, qu'en place des jambes élégantes que m'a données la nature, j'avais celle du vieux président goutteux du consistoire. Et pendant que je restais sans bouger à la même place, le vieux président valsait avec légèreté d'un biseau raseau tenant Victorine dans ses bras, et tout cela en me regardant d'un air moqueur. Et à la fin, il prétendit qu'il m'avait gagné mes jambes au piquet. Oh, je m'éveillais, tu peux en croire, couvert d'une sueur d'angoisse, et surtout préoccupé de ces tristes images de nuit, je porte à mes lèvres une tasse pleine d'un chocolat bouillant, et je me fais une brûlure dont tu peux encore voir les traces. Mais comme je sais que tu prends une médiocre part aux douleurs des autres, je passe tous les événements dont le sort remplit cette journée Pour te dire seulement qu'en m'habillant le soir, une maille de mes bas de soie se rompit, deux boutons de mon gilet sautèrent au moment de monter en voiture, et surtout tomba dans la rue, et lorsque je voulus serrer la boucle de mes souliers, je m'aperçus que mon âme de valet de chambre m'avait mis deux bouches clés inégales. Il me fallut rester chez moi, ce qui me resterait d'une bonne demeure. Alors Victoire vint au devant de moi, de tout l'éclat de ses charmes. Je l'invitai pour la prochaine danse. Nous valsâmes. Oh, j'étais dans le ciel. Mais j'éprouvais tout à coup la malignité du sort contraire. Ah, oh, l'enchaînement des choses, sans doute, reprit Charles. Bon, nomme-le comme tu voudras. Tout cela m'est égal aujourd'hui. En un mot, c'était une malice du sort qui avant-hier me fit tomber sur une racine d'arbre. Je sentis en dansant se renouveler ma douleur du genou. Elle augmentait à chaque instant et devint d'une violence extrême. Mais dans l'instant même, Victorine dit assez haut pour être entendue d'autres danseurs, « C'est un temps de valse à endormir. On fait signe aux musiciens, on les excite et la danse devient de plus en plus rapide. » Je combats la douleur infernale avec toute la puissance de ma volonté. Je m'élance élégamment, le sourire sur les lèvres. Et pourtant, Victorine voit de plus en plus rapide. Elle vole en me disant « Mais pourquoi êtes-vous toujours lourd aujourd'hui, lourd aujourd'hui, cher baron ? Vous n'êtes même plus danseur !» Oh, je sens mon cœur traversé de brûlants coups de poignard. Pauvre ami, dit Charles en souriant, je comprends toutes tes souffrances. Et cependant, continua Ludovic, ce ne fut que le prélude de mes aventures. Tu connais mon habileté dans la danse à sexe, à 16, eh bien, tu sais combien de porcelaines, combien de tasses j'ai renversé dans les essais faits de ma danse-chambre pour arriver à la perfection. Une des figures de cette danse est une des plus admirables que l'on puisse imaginer. Quatre couples sont groupés dans des positions gracieuses. Le danseur, se balançant sur la pointe du pied droit, saisit sa danseuse à la taille d'une main, tandis que de l'autre est délicieusement recourbé au-dessus de sa tête. Et les autres, pendant ce temps, tournant en rond autour de lui. Aucun illustre danseur n'a trouvé rien de pareil. J'avais basé sur cette danse difficile l'édifice de mon bonheur. Je voulais, tout en dansant, dire à Victorine, « Adorable comtesse, je vous aime, je vous adore, soyez mon ange de lumière. » Et voilà la cause de mon ravissement, lorsque je reçus l'invitation du comte de Puck. La malencontre de valse était terminée. Je me retirai dans ma chambre voisine, où le bon Cochemy va me verser aussitôt du champagne. Le vin me donna de nouvelles forces, et ma douleur disparut. La danse allait commencer. Je me précipitai dans la salle, m'emparai de Victorine en lui baisant ardemment la main, et je pris ma place dans la ronde. Mon tour vient, je me surpasse moi-même, je vois, je me balance comme le dieu des danseurs. J'étreins ma divine comtesse, tout en murmurant à des voix « Divine comtesse !» Oh, l'aveu de mon amour s'échappe de mes lèvres. Je regarde ma danseuse fixement dans les yeux. Dieu du ciel, ce n'est pas Victorine. C'est une dame qui m'est absolument inconnue, seulement semblable à Victorine par la taille et le costume. Oh, je reste comme frappé de la foudre. Un chaos se ferme autour de moi. Je n'entends plus la musique. Et je m'élance en bon sauvage à travers la foule, d'où j'entends par-ci et par-là des cris de douleur, jusqu'à ce que je me sente arrêté par le bras et qu'une voix me crie, semblable à un éclat de tonnerre. Je crois, baron, que vous avez le diable dans les jambes. C'était la malencontreuse, le malencontreux président du consistoire, que déjà j'avais vu en rêve et qui me resta dans un coin de la salle en ajoutant. Mais à peine venais-je de quitter la salle de jeu, que vous êtes venu vous jeter à mes pieds comme un postré, à me faire crier comme un taureau. J'avais été un homme du monde. Vous voyez quel désordre vous avez causé ici. Et en effet, la musique avait cessé. Les danseurs s'étaient dispersés çà et là. Et plusieurs d'entre eux, j'en fis la remarque, s'en allaient en boitant. Tandis que les dames se faisaient reconduire à leur place et respiraient des sels. J'avais exécuté sur les pieds des danseurs le galop du désespoir, jusqu'au moment où le président, fort comme chêne, avait arrêté ma course folle. Victorine s'approcha de moi. Ses yeux jetaient des éclairs. « Ah, voilà, me dit-elle, monsieur le baron, une politesse sans pareille. Vous m'invitez à danser, vous en choisissez une autre, et vous vous troublez tout bas. Tu comprends mon trouble. Ces mystifications, ajouta-t-elle hors d'elle-même, sont assez dans vos habitudes, monsieur le baron, mais je vous en prie à l'avenir de ne pas me choisir pour en être le but. » Et elle s'éloigna. Puis vint ma danseuse, la bonté, l'innocence même. La pauvre enfant, je le comprends, avait pris feu, mais c'est de ma faute. Oh, Victorine, Victorine, oh, danse malencontreuse, danse des furies qui me précipitent dans l'enfer. Et Ludovic ferma les yeux et se mit à gémir. Et son ami fut assez généreux pour ne pas rire aux éclats. Ludovic, toutefois, s'efforça de prendre héroïquement son infortune. « Mais, dit-il à Eucharles, tu étais aussi invité ?»« Sans doute, reprit Eucharles en feuilletant un livre et sans en détacher les pas yeux. « Et tu n'es pas venu ? Tu m'as pas dit un mot, seul mot de cette invitation ?» J'avais, reprit Eucharles, d'autres occupations plus importantes, et j'aurais refusé même l'invitation de l'empereur de Chine. La comtesse, continua Ludovic, a demandé instamment pourquoi tu n'étais pas venu. Elle paraissait inquiète et regardait souvent vers la porte. J'aurais été jaloux si pour la première fois tu étais parvenu à toucher le cœur d'une femme. Mais elle m'a bientôt donné une explication bien claire. C'est, a-t-elle dit, un original au cœur froid, aux manières tranquilles. Sa présence au milieu du plaisir gêne souvent. Et je crains un moment qu'il ne vînt troubler notre joie. En vérité, je ne peux pas comprendre que moi, mon cher, toi, mon cher Eucharles, si bien doté par la nature du côté du corps et du côté de l'esprit, tu sois si peu heureux auprès des dames. Je ne sais pourquoi je te suis toujours préféré par elles. Je crois, homme de glace, que tu n'éprouves aucun goût pour le bonheur que donne l'amour. Et c'est pour cela, sans doute, que tu n'es pas aimé. Crois-moi, Même la colère de Victorine n'a pas su faire jour à travers les flammes de l'amour qui brûlait pour toi dans son cœur. La porte s'ouvrit et un petit homme étrange entra dans la chambre. Il portait un habit rouge garni de larges boutons d'acier. Sa coiffure haute était poudrée et ornée d'une petite boucle ronde. « Excellent cochenille !» s'écria Ludovic en allant à sa rencontre. « Cher monsieur Cornichille, comment se fait-il que j'ai le rare plaisir ?» Euchard prétendit que ses affaires importantes l'appelaient au dehors et il laissa son ami seul avec le valet de chambre de Walter Puck. Cochenille assura à celui-ci, en souriant et les yeux baissés, que son gracieux maître était persuadé que le très honoré baron avait été affligé d'une maladie dont le nom en latin a quelque ressemblance avec le mot « raptus ». Il lui dit qu'il était venu, lui Cochenille, pour s'informer des nouvelles de sa santé. Ludovic raconta alors au valet comment la chose s'était passée, et il apprit alors que sa danseuse était une cousine de la comtesse Victorine, qui était venue de la campagne pour assister à la fête de l'anniversaire du comte, qu'elle était intimement liée avec la comtesse, et qu'elle s'habillait souvent même l'une ou l'autre, pour montrer, comme cela arrive quelquefois aux jeunes dames, l'accord parfait de leur cœur, même dans le choix de la soie et de la gaze de leur parure. Cochenille donna à entendre que la colère de la comtesse Victorine n'avait rien de bien sérieux. Il avait remarqué, à la fin du bal, lorsqu'il avait servi ses glaces aux deux cousines, qu'elles avaient chuchoté tout bas et ri de grand cœur tout en prononçant plusieurs fois le nom du baron. Il avait cru s'apercevoir aussi que la cousine était une complexion fort amoureuse et serait enchantée de lui voir continuer ce qu'il avait commencé en faisant sa cour. Enfin, Cochenille conseilla au baron de voir Victorine le plus tôt possible. Il lui dit qu'il en présenterait, sur une occasion, le jour même, le président du consistoire, Webbs, donnant le soir un thé esthétique.